RCF.
Bonjour à tous et bienvenue au pied de la lettre, le rendez-vous avec la littérature sur RCF. Balade en forêt aujourd'hui, promenade sous les arbres, là où se jouent les destins, que racontent mes deux invités. De tout temps, la forêt est le lieu protecteur, mais aussi celui de tous les dangers. On y touche du bois, on se confronte à la matière et on se confronte aussi à la vie sans doute. Fabriquer un violon n'est pas seulement affaire d'assemblage, il faut encore savoir de quel bois il est fait. Dans l'Italie du XVIIe siècle naissent les maîtres qui vont façonner ces instruments fascinants qui aujourd'hui encore déploient leurs notes de musique entre les mains des virtuoses. La forêt au violon de Cyril Gelly, publié chez Albin Michel. Ce n'est pas un roman, mais le récit d'une vie aventureuse et immobile. À l'heure de la quarantaine, l'auteur sent le besoin de faire le point, de s'arrêter, de prendre de la hauteur. Dans sa cabane perchée, il va passer 3 mois en forêt, à l'écoute des arbres et de son propre cœur. Par la force des arbres d'Edouard Cortès est publié aux éditions des Équateurs.
Au pied de la lettre, Christophe Héning.
Bonjour Édouard Cortès.
Bonjour.
Merci de votre invitation.
Avec Mathilde, vous avez choisi comme voyage de noces de partir à pied jusqu'à Jérusalem. Hein, ce que vous avez raconté dans un livre, Un chemin plein de promesses, c'était en 2008. Ce n'est pas le seul livre de marche que vous avez écrit, mais aujourd'hui, aujourd'hui c'est un chemin immobile, un chemin intérieur. Un jour, il faut poser ses godillots.
Oui, il y a tout ce paradoxe chez le voyageur qui est celui de l'hésitation entre rester auprès de son arbre, comme le chantait Brassens, ou bien prendre la fuite avec le moyen le plus simple. C'est ce que j'ai fait pendant une quinzaine d'années sur les chemins pèlerins ou sur les chemins du monde, marcher dans une quête intérieure. Et est venu le temps peut-être de la sagesse, ou du moins j'ai essayé de l'ébaucher en vivant auprès de mon chêne, auprès d'un arbre majestueux dans les forêts du Périgord noir, pour une expérience un peu inédite, puisque c'était un voyage immobile, une exploration immobile dans la forêt.
Dont on va parler tout à l'heure. Bonjour Cyril Gelly.
Bonjour.
Alors c'est un livre à la douce mélodie que vous nous proposez. Vous retracez un grand destin, celui d'un luthier du XVIIe siècle, dont vous nous révélerez peut-être le nom tout à l'heure. Ce livre, vous l'avez écrit en musique. Est-ce qu'il y a une bande-son de ce roman ?
Il y a une bande-son, effectivement. Quand j'ai commencé à travailler, pour résumer brièvement, hein, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Antonio, qui a une vingtaine d'années et qui habite un petit village au nord de l'Italie, à Crémone. Hein, nous sommes dans les années 1670-1680. Ce jeune homme est luthier, effectivement, et il fabrique des violons. Et il faut savoir que pour fabriquer un violon, il faut 2 bois, essentiellement. D'abord de l'érable, qui est un bois plutôt stable, plutôt consistant et qu'on trouve assez aisément à l'époque. Et le second, c'est un bois beaucoup plus rare, beaucoup plus cher, puisqu'il ne pousse qu'en altitude. C'est un résineux, il est plus élastique, plus léger, c'est de l'épicéa. Et c'est la raison pour laquelle Antonio entreprend un premier voyage vers les montagnes roses, qui ne s'appellent pas encore les Dolomites, où il a la chance de rencontrer un vieux monsieur, un vieux paysan, qui l'emmène dans la forêt et avec lequel il va sélectionner 5 épicéa pour tous ses violons futurs. Problème, Antonio n'a pas d'argent, Antonio n'a pas un sou en poche, et vieux...
On va voir comment
paysan,
il va payer son bois.
Exactement. Alors pour revenir à votre question, en fait, et c'est ce que je voulais dire, c'est que quand vous commencez un livre comme celui-ci, je pense que c'est essentiel d'être accompagné de musique. Moi, j'avais choisi comme musique un thème magnifique, qui est le thème de la liste de Schindler, joué par Isaac Perman sur un magnifique violon qui est un Stradivarius, le Soil. Et ce qui est extraordinaire quand vous écrivez en musique, c'est que aussitôt que la musique résonne, vous êtes de nouveau plonger instantanément dans votre histoire. Et ça, c'est un moyen très facile de rejoindre vos personnages et de les réaccompagner pour une journée et passer ce moment avec eux, en fait.
Mmh. Il y avait de la musique, Édouard Cortès, dans votre cabane dans les bois.
Bien sûr, celle de la plus grande symphonie, celle de la nature. Mais je n'ai pas emporté de musique. J'ai essayé justement de me déconnecter pour me raccrocher aux branches. Je dirais dans une formule que je fuyais un peu le digital pour essayer d'aller au végétal. Et en revanche, j'ai passé mon temps à observer et à écouter la nature, et c'est vrai que ce qui aurait pu accompagner mon voyage immobile et ce qui pourrait accompagner le lecteur s'il lit mon livre, ce serait la pastorale de Beethoven, uh-huh. la grande symphonie pour s'enforester en même temps que qu'on dévore les pages.
On va y venir. Alors, des livres, des histoires, et puis au pied de la lettre, il y a une place aussi particulière pour la poésie avec Stéphane Bataillon qui nous rejoindra tout à l'heure. Alors, on y revient à cet Antonio, 22 ans, Crémone en Italie du Nord, 1666. Le jeune homme ne sait pas encore, mais il va connaître une destinée internationale, il faut le dire. Hein. En attendant, Antonio est l'apprenti bouillonnant d'Amati, qui est un maître luthier. C'est comme ça que commence votre roman, Cyril Gelly, un jeune homme plein d'énergie, d'exigence aussi.
Oui, c'est un jeune homme qui est à la recherche du violon parfait, en fait. C'est un jeune homme qui est à la recherche aussi de lui-même. Pourquoi est-il luthier ? Pourquoi fabrique-t-il des violons ? Et ce que lui dit son maître, c'est « tant que tu ne sauras pas pourquoi tu fabriques un violon, aucun son n'en sortira ». Et donc toute sa vie, il va être à la fois à la recherche de ce pourquoi et de créer un violon parfait, puisque à la fin du XVIIe siècle, il faut savoir que les violons n'ont pas encore le poids, n'ont pas encore la forme, n'ont pas encore la taille qu'on leur connaît aujourd'hui. Notamment les violons de Niccolo Amati, le maître dont vous parlez, sont des violons plutôt larges et petits, donc qui rendent un son qui est différent évidemment des violons que l'on connaît aujourd'hui. Et ce qu'il faut imaginer, c'est qu'à cette époque, c'est le début des grands violonistes, des grands solistes. Et donc, on passe de petites salles qui sont à peu près de la grandeur de celle dans laquelle nous sommes, à peu près une vingtaine de mètres carrés, voilà, à des immenses opéras qui peuvent recevoir 400, 500 personnes, où tout d'un coup, vous avez le violon qui devient l'instrument principal. Donc, il va falloir pouvoir jouer avec un orchestre derrière soi. Et c'est en ça que le rôle d'Antonio et d'autres luthiers à cette époque-là est intéressant et primordial.
Mmh. On sent du coup, vous nous racontez, on s'imagine bien, hein, il y a une sorte de fascination hein, pour les luthiers. C'est plus qu'une technique, il y a quelque chose d'autre, quelque chose en plus quand on fabrique un violon. Il faut, oui, y mettre quelque chose d'autre.
Je crois que tous ces métiers-là, si vous n'imitez pas de la passion, du cœur, de la patience, c'est impossible. Et ce qui est extraordinaire, moi j'étais en communication avec 4 ou 5 luthiers, ils me disaient tous la même chose. Ils me disaient d'abord que c'était pas un métier, aujourd'hui bien sûr, hein, c'était pas un métier qu'on faisait pour l'argent. C'est un métier de passion, un métier qu'on aime. Et surtout, que ce qui est extraordinaire, c'est que vous partez d'une planche de bois et vous en faites une guitare. Mmh. Et vous en faites un violoncelle. Et vous en faites un violon. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous disiez tout à l'heure 71 pièces pour faire un violon. Oui, 67 pièces de bois, plus les quatre cordes. Et qui sont des intestins de mouton. Et puis, il faut savoir aussi que l'archer qui accompagne le violon n'est fait que de crin de cheval. Donc, en fait, c'est un instrument qui va complètement dans le sens d'Edouard, c'est-à-dire que c'est un violon le violon est un instrument de la nature. Tout était là, l'homme n'a rien inventé, sinon il a rassemblé entre elles différentes pièces qu'il a trouvées dans les forêts.
Alors, il y a un secret, hein, un mystère autour de votre héros. Il y a un mystère qui perdure. Ces violons sont d'une qualité exceptionnelle. On ne sait toujours pas pourquoi.
Disons tout de suite que Antonio, son nom de famille, c'est Stradivari.
Voilà, faut le dire.
Faut le dire. Stradivarius. Et en fait, au début, le jeune homme se cherche, et c'est la raison pour laquelle on comprend tardivement qui il est. Qu'est-ce qu'a fait le génie de Stradivarius ? Tout le monde se pose la question depuis des décennies, peut-être même un siècle ou deux. On a cherché dans le vernis, Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, pour tout vernis, Stradivarius ne mettait que deux couches. Une première couche d'huile, qui était un peu de l'huile de peinture, et la seconde, c'était la même huile mélangée à des résines de pin.
Ça, on l'a trouvé il n'y a pas longtemps. Mais c'était dans les années 80.
Oui, même plus près de nous. C'était 2010, exactement, 2010. Où il y a eu une étude très approfondie. Ils sont allés gratouiller un tout petit peu de millimètres dans quatre Stradivarius, vous imaginez, pour aller étudier le vernis. Donc,
ce n'est pas ça.
Non, c'est pas ça. Pour Antonio Stradivarius, le vernis était beaucoup plus visuel qu'acoustique. Et donc, on a cherché, on a pensé à des bains de champignons, à des procédés extraordinaires. Et puis, bien sûr, on a parlé aussi de ce petit âge glaciaire, parce que entre 1645 et 1715, il fait très très froid en Europe. Et donc, le fait qu'il fasse très froid, les arbres poussent moins vite, et donc la qualité de leur bois est bien meilleure que lorsqu'il fait une température normale. Et d'ailleurs, l'autre grand luthier de cette époque, c'est Guarnari del Gesù. Ce sont les deux grands luthiers, Stradivarius et del Gesù, et tous les deux sont de la même époque. Donc on peut penser que c'est peut-être ce minimum.
Lié au bois.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le minimum demander, hein, le petit âge glaciaire. Moi, personnellement, je pense que si Stradivarius a fait de si beaux violons, c'est parce qu'il était génial. C'est parce qu'il avait un génie, parce qu'il avait quelque chose de plus que les autres.
Avec quand même, c'est aussi c'est au cœur de votre roman, hein, puisque c'est La forêt au violon, le titre, hein, je le rappelle, avec quand même ce rapport au bois, Cyril Gelly, qui est aussi important. C'est-à-dire, face à l'arbre, face à l'épicéa, votre héros, Antonio, voit son violon, sent son violon.
Je pense que, et c'est ce que m'ont dit les luthiers, hein, que j'ai pu contacter, ils m'ont tous dit que si on n'aime pas le bois, on ne peut pas être luthier. Et d'ailleurs, le mot luthier est un mot arabe à l'origine qui veut dire le bois. Et je pense qu'il faut aimer la matière que l'on travaille, il faut aimer cette matière parfois rugueuse, cette matière difficile qui ne se laisse pas attendrir. Il faut trouver le bon bois, il faut sélectionner le bon érable, le bon épicéa, la bonne palissandre. Et ce qui est très amusant, c'est que dans le violon, chaque pièce porte un nom d'homme, porte un nom. Il y a un cœur, il y a une âme, il y a des chevilles, il y a une tête. C'est très amusant de voir que, en fait, c'est un peu de nous-mêmes, ce violon. Et c'est comme si on était nous-mêmes représentés par un violon. D'ailleurs, vous connaissez certainement cette magnifique photo de Man Ray, hein, qui représente une femme un peu de dos avec deux ouïes sur les hanches, et on voit à la fois son dos et on voit à la fois un violon.
Une image forte. Alors, il y a un autre élément important dans votre roman, qui est surprenant, parce que vous êtes un homme de théâtre aussi, hein, donc avec des intrigues, notamment pour Diplomatie, un grand succès, qui sont vraiment bien calées dans le temps, sur un temps très court. Or là, dans votre roman, on est sur l'existence entière d'Antonio et sur un rapport au temps important, parce que le bois... Eh bien, voilà, il faut lui laisser le temps de sécher.
Alors, on n'est pas vraiment sur l'existence entière d'Antonio, parce que Antonio a eu la chance, pour l'époque, de vivre 93 ans. Oui. Ce qui est déjà aujourd'hui extraordinaire. À l'époque, vous pouvez imaginer, il naît en 1643 à peu près. On ne sait pas exactement la date, mais on sait qu'il meurt en tout cas 93 ans après cette date-là. Donc, il vit très longtemps. Et moi, en fait, ce qui m'a intéressé dans ce personnage, c'est qu'en fait, on sait très peu de choses d'Antonio Stradivari dans ses premières années. Et il commence à être véritablement célèbre avec un violon qui est magnifique, qui est le violon dont parle le livre, qui est le Lever du Soleil, qui porte un titre évidemment emblématique et symbolique de ce qu'il va devenir, puisque son dernier violon, achevé bien plus tard, portera le nom de Chant de Cygne. Donc il y a un début,
après,
il y a une fin.
Presque un millier de violons.
Un millier de violons. Et donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'étant donné qu'on ne savait pas parfaitement, ou en tout cas, on n'avait pas connaissance de la vie d'Antonio Stradivari dans ses premières années. Ce que j'aime à dire, c'est que, ce blanc de l'histoire, hein, c'est-à-dire que personne ne peut venir me dire est-ce que ça s'est passé ou pas, hein, aucun historien, eh bien, c'est une page blanche à l'intérieur de laquelle on peut s'engouffrer et écrire quelque chose de romanesque, qui n'est pas forcément vrai, mais qui est vraisemblable. Et ça, c'est absolument fabuleux.
Il y a ce rapport donc, hein, au temps, malgré tout, parce qu'il faut que les arbres qu'il choisit soient pendant 10 ans au repos.
Oui, qu'il sèche,
qu'il puisse le travailler. Et en même temps, il y a un lien qui se crée entre lui, luthier en ville, et Giuseppe qui est là, qui l'accueille dans à l'orée de la forêt. Il y a ce lien très fort qui se tisse pour un Antonio un peu sans famille, sauf qu'après, il a sa propre famille et ce grand amour qu'il a avec Francesca.
Oui, vous parliez de Giuseppe, qui est ce vieux paysan dont on parlait tout à l'heure, ce vieil homme qui l'accueille dans son hameau et avec lequel il va choisir ses épicéas. Et en fait, ce que je vous disais, voilà, Antonio n'a pas d'argent, n'a pas un sou en poche. Et ce vieil homme lui propose un pacte. Pour chaque épicéa qu'il va couper, Antonio devra fabriquer un violon. Et comme il faut à peu près une dizaine d'années, vous venez de le dire, pour que le bois sèche, eh bien, il va entreprendre 5 voyages. Dans ces 5 voyages, il va faire aussi la connaissance d'une jeune femme, hein, qui est la petite fille de ce paysan, qui est sourde, qui est muette, qui n'entend pas les notes de musique, mais avec laquelle il va tisser des liens particulièrement forts. Et il attend chez lui Francesca, qui est sa femme, et qui a mis au monde plusieurs enfants. D'ailleurs, il faut savoir qu'Antonio sera marié une deuxième fois, et au total, il aura 11 enfants. À l'époque, on ne comptait pas.
1000 violons et 11 enfants.
Voilà, 1000 violons, 11 enfants. Et avec Francesca, elle va quand même en faire 6. Et donc, voilà, c'est cette époque-là qui est très intéressante. C'est entre, voilà, la naissance d'Antonio et à peu près ses 40 ans, hein, où il n'est pas très connu. On ne sait pas très bien, est-ce qu'il a été véritablement l'assistant de Niccolò Amati, le maître dont vous parliez, ou, voilà, on n'a jamais retrouvé un contrat ébéniste, de travail. Hein. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et c'est ce qui rend encore une fois le parcours de cet Antonio intéressant et vibrant d'une certaine façon.
Ça veut dire aussi que dans votre histoire, la façon dont vous avez écoutez ces années mystères d'Antonio, eh bien, il va commencer à construire, à fabriquer ces violons. Et on sent une évolution, mais il ne se sent pas tout de suite luthier.
Non, puisque pour lui, être luthier, c'est faire un violon parfait. Et on ne peut pas passer immédiatement au violon parfait. Il faut chercher, il faut dessiner, il faut déchirer. Il faut casser les violons dont le son n'est pas exactement celui qu'il attendait. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Amati le met à la porte. C'est parce qu'il casse des violons, il les fabrique. Et puis comme ils n'ont pas le bon bois, puisque Amati n'a pas les moyens d'acheter de l'épicéa, et donc à la place, il met du sycomore ou un bois ou un cèdre, mais moins léger. Donc le violon n'a pas le son que Antonio aimerait. Il le casse. Et donc à un moment donné, évidemment, on ne peut pas perdre de l'argent comme ça. Donc Amati le met à la porte de chez lui. Et tant qu'il n'a pas trouvé la volute, la taille, la forme, l'emplacement exact des ouïes, l'épaisseur des éclisses qui sont la partie qui entoure le violon, pour lui, il n'est pas luthier. Et il va le devenir que lorsqu'il aura réalisé ce premier violon auquel on va donner plus tard le nom de lever du soleil, qui est en définitive à l'image de la jeune fille qu'il attend au hameau.
Observer, ouais. Voilà. Qu'il a observé. Intensité et sonorité, les violons, se dit-il alors, n'étaient plus destinés comme autrefois à accompagner sagement une voix humaine, mais à mener un orchestre et à conduire à lui tout seul un concert dans les salles qui s'agrandissaient de jour en jour. C'est là le violon auquel il fallait parvenir. Le violon depuis Stradivarius est le maître de l'orchestre, finalement.
Oui. Au XVIIe siècle, encore une fois, le violon, c'est l'instrument du pauvre. Les gens les personnes, hein, qui ont un peu d'argent vont plutôt jouer sur du luth, sur du viol de gambe. Hein, vous vous souvenez du film Tous les matins du monde, par exemple. Et Antonio Stradivari va faire du violon le roi des instruments et lui permettre de jouer aussi bien dans une petite salle avec un son mélodieux que de jouer dans une énorme salle et d'avoir, il le dit à plusieurs reprises, la voix de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on passe d'un instrument qui est commun à la naissance d'Antonio, et à sa mort, ça sera plus du tout la même chose, ça sera vraiment un instrument royal, dans tous les sens du terme. Et c'est ce qu'il a apporté, et c'est ce que d'autres luthiers depuis cherchent à faire aussi.
Il s'imaginait, c'est difficile, on a peu de traces, hein, il s'imaginait une telle destinée, Stradivari.
Je pense pas qu'on travaille pour ça. Je pense pas qu'on, en tout cas, je pense pas de ce que j'ai pu comprendre du personnage. Je pense que ce qui l'intéressait, bien sûr, il aime être connu, il aime savoir que ses violons sont joués dans les plus belles cours, chez les papes, etc. Il aime gagner de l'argent, il a une famille nombreuse, on vient de le dire, etc. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est être dans son atelier. Il aimait pas du tout aller apporter un violon à quelqu'un de
un roi. Mettre en scène, voilà.
Voilà, lui, ce qu'il voulait, c'est être dans son atelier. Tranquille au milieu de son bois, au milieu de ses outils, au milieu de ses cols d'os et de faire ce qu'il a toujours aimé faire, 10 heures par jour, 12 heures par jour, un violon.
Mmh. Édouard Cortès, je ne sais pas si vous pratiquez le violon, vous auriez pu, si vous n'avez pas emmené d'enregistrement dans votre cabane, est-ce que vous êtes sensible justement à la musique telle que nous en parle Cyril Gély. Vous avez eu le livre de Les forêts au violon. Ça vous parle?
Évidemment, c'est très inspirant. Ce qui m'enchante, c'est de voir que moi qui étais dans un arbre vivant, l'arbre mort assemblé continue de nous fournir l'enchantement des forêts. Et c'est là qu'il y a quelque chose de magique, c'est que on doit beaucoup aux arbres, on doit beaucoup aux forêts, mais on doit plus encore qu'on ne l'imagine. C'est-à-dire l'enchantement qu'elles nous offrent, la beauté qu'elles nous offrent, se prolonge à travers tous nos objets de la vie quotidienne, notamment évidemment par le livre où on peut s'échapper, mais par la musique, c'est extraordinaire de voir que les oiseaux, toute la mélopée des canopées continue de nous enchanter à travers le bois. Et j'ai eu la chance de traverser, dans une de mes échappées, de traverser les forêts du Jura, où on voit de grands épicéas qui servent encore aujourd'hui pour les facteurs de violon.
Mmh. On va écouter un extrait de La forêt au violon, le livre de Cyril Gély, paru aux éditions Albin Michel. C'est Stéphanie Gallet qui nous fait ce petit extrait.
Antonio aspirait à devenir luthier, et même le meilleur de la ville. Mais il n'était en ce temps-là qu'un modeste apprenti aux ordres de Pescaroli. Et cela le rongeait. Alors, dans ses nuits sans sommeil, il assemblait sans relâche les 71 pièces qui formaient un violon. La table supérieure, qu'on nommait table d'harmonie, et dans laquelle il perçait les ouïes en forme de F. Les éclisses, ces lames de bois qui font le tour de la caisse de résonance et qui relient la table d'harmonie à la table du fond. Les belles échancrures pratiquées de chaque côté de la caisse pour faciliter le jeu de l'archet. Le manche, qu'Antonio fixait ensuite dans le haut de la caisse et dont l'extrémité était ornée d'une volute. Mais l'opération la plus délicate était de loin la dernière, juste avant la dépose du vernis. Il s'agissait alors d'insuffler la vie à l'instrument. Ce n'était rien, rien qu'une minuscule tige de bois arrondie, mais son importance était considérable. Il fallait, avec habileté, l'introduire à travers lui et venir la coincer d'une main ferme entre les deux tables, légèrement à droite, en arrière du chevalet. Trop proche du bord, les cordes de sol et de ré perdaient en volume et en sonorité. Trop près du centre, le la et le mi devenaient stridents et désagréables. « Comment appelles-tu cette pièce ?» lui avait demandé un matin Francesca. « L'âme. »
Thank you.
concerto grosso intitulé « Pour la nuit de Noël » d'Arcangelo Corelli, qui était contemporain d'Antonio Stradivari, au pied de la lettre aujourd'hui avec Cyril Gelli pour « La forêt au violon » paru chez Albin Michel, et Édouard Cortès pour « La force des arbres » par « La force des arbres » aux éditions des Équateurs.
Au pied de la lettre, RCF.
Édouard Cortès, alors 3 mois dans les arbres, 3 mois dans votre cabane, c'est l'aventure que vous avez risquée. C'est peut-être l'aventure la plus risquée de toutes vos grandes virées.
Oui, parce qu'elle fait suite à une sorte de débandade dans une aventure un peu folle dans laquelle je m'étais lancé, l'aventure agricole. J'ai été berger d'abord sur les bords de Loire, puis ensuite j'ai monté ma propre petite entreprise agricole. J'avais une petite ferme, une micro-ferme, où j'ai soigné des brebis pendant quelques années. Et puis au fil des années, le désarroi agricole m'a saisi. Et je ne savais pas trop comment m'en sortir entre les dettes, les histoires familiales, les bref, j'étais dans le noir. Et j'avoue que j'avais de fortes tentations, un peu les tentations dont parle Dante dans la Divine Comédie, qui traverse les forêts obscures, les forêts du suicidé. Et devant ces tentations, ces angoisses que peuvent ressentir peut-être certaines personnes dans ces moments de confinement, j'ai choisi de prendre la poudre d'escampette, et plutôt que de partir marcher, ce que je savais faire jusque-là, je suis parti pour un voyage immobile. Donc j'ai choisi un chêne, j'ai construit une petite cabane au sommet du chêne, et je suis resté là pendant 3 mois, dans un moment d'enchantement, de gaieté, au printemps. J'ai attendu le printemps, j'ai attendu les bourgeons du chêne, et j'ai passé 3 mois pour essayer de faire jaillir une clarté nouvelle en moi-même.
Alors on va y revenir à cette expérience des 3 mois dans votre arbre. Simplement, sans vouloir insister, mais c'est important, je pense, dans votre démarche, et c'est important aussi de l'entendre. Vous écrivez un moment « L'audace d'entreprendre ne console pas du sinistre, et puis l'échec n'est pas une chance, mais bien une souffrance. » Souvent, on aurait tendance à vouloir gommer un peu vite les épreuves. C'est important que vous en parliez de façon très claire.
Oui, il y a cet adage un peu positiviste que l'échec serait toujours une chance pour mieux rebondir. Mais moi, c'est pas tout à fait ce que j'ai vécu. Je commence à le sentir, les effets de l'échec dans la transformation, dans la métamorphose que peut avoir un être. Mais moi, j'ai face à l'échec, je me suis trouvé considérablement démuni, et j'en ai ruminé pendant des mois une petite musique très noire. Et donc, moi, je trouve que l'échec, c'est d'abord une perte de confiance en soi, et c'est très long de retrouver la confiance en soi, voire même parfois on n'y arrive pas. Et je cherchais cette voie pour retrouver une sorte de confiance. Et tous les appuis que j'avais eu autrefois se sont effondrés. Tout l'enchantement que j'avais eu de la vie s'est effondré. Et donc j'ai essayé de trouver une voie. Alors c'est l'arbre qui me l'a apporté, c'est l'attention, l'observation à la nature, mais c'est vrai que je ne souhaite à personne, évidemment dans toute sa vie on a des épreuves, tout le monde traverse des tragédies, mais je ne souhaite à personne de rester dans la rumination de l'échec.
Même selon Cyril Gelli, hein, même Stradivari a connu des moments de doute dans sa carrière. Vous écrivez, Édouard Cortès, fatigué du monde, d'en bas et de moi-même. Vous montez, vous pensez à cet arbre. Comment vous avez pensé justement vous auriez pu, vous enfermer dans un monastère, partir comme ermite, aller sur une île déserte. Non, un arbre.
Oui, j'ai suivi le bon adage de Saint Bernard de Clairvaux, le père un des pères du monachisme, qui prodiguait à ses moines, à ses disciples, qu'on trouve dans les forêts plus que dans les livres, qu'on trouve dans les arbres et dans les pierres bien plus qu'aucun maître ne peut enseigner. Donc j'ai suivi cet adage, plutôt que d'aller dans une cellule, j'ai fait de la forêt un petit cloître, un petit monastère. C'est Virgile qui parle de l'osium, c'est-à-dire c'est l'endroit où on se retire des affaires du monde. Et j'aimais bien cette idée que oui, c'était une sorte de retrait et de retraite, donc un moment pour la contemplation, un moment pour l'élévation, mais c'était aussi un pas de côté vis-à-vis de ce que j'étais et vis-à-vis du monde pour essayer de retrouver une respiration. Et je crois que l'avoir trouvé en forêt, c'est-à-dire que je me sentais mal entre quatre murs, et je crois que ma cellule en haut du chêne était plus propice au temps que je vivais.
Et vous y trouvez hein, de quoi respirer. Là aussi, il y a un rapport au temps. Vous avez 40 ans à ce moment-là et vous êtes au contact d'arbres séculaires. Ça vous a là aussi marqué?
Oui, parce que le aller en forêt, c'est rentrer dans une autre dimension du temps. Et quand je regardais mon grand chêne qui a à peu près entre 120, 150 ans, je dirais, on prend la vie prend une autre dimension, c'est-à-dire que lui, il va doucement pour se développer. On en parlait tout à l'heure de la qualité du bois. Pour un bois de qualité, pour un cœur de qualité, pour une âme de qualité, il faut prendre son temps. Et c'est en ça que l'arbre est très anti-moderne, parce qu'il n'est pas dans l'immédiateté. Il a des racines, des rameaux, et pour aller des racines à rameaux, il prend beaucoup de temps. Et j'aimais bien cette dimension de me dire qu'il avait vu bien plus loin que moi. Il dans l'histoire, il avait vu bien des conflits, bien des guerres, bien des tragédies, et qu'il était encore là, qu'il portait, même s'il avait quelques branches mortes au bas de son tronc, qu'il avait lâché un peu de lest au fil de l'histoire. Et il y a une grande sagesse à se mettre au temps des arbres, qui n'est évidemment pas le temps des hommes.
Cet arbre, c'est un peu une métaphore hein, aussi de la vie humaine. Hein, quand vous expliquez que l'arbre cherche la lumière et est prêt, comme vous le disiez à l'instant, à perdre quelques branches dans cette histoire.
Oui, et même, vous voyez, j'ai assisté quand j'étais dans ma cabane, j'ai entendu un énorme tremblement et crash. C'était un arbre, un grand être qui venait de tomber dans la forêt, pas très loin. Je suis descendu par curiosité, j'ai été voir, et puis je me suis aperçu en levant la tête. Et c'est pour ça que vous le dites très bien, que c'est une allégorie de la vie. Je me suis aperçu que l'arbre qui avait cherché toute sa vie la lumière, qui avait poussé vers le haut, une fois mort, il avait laissé un immense trou de clarté. Je crois qu'il y a là un destin. En tous les cas, j'aimerais bien suivre ce destin des arbres, qui est d'essayer de s'élever, et puis quand on chute, quand on tombe, quand vient l'heure de la mort, on peut laisser un peu de lumière jaillir. Du moins, j'espère que c'est le chemin que j'aimerais bien prendre, du moins.
Un chemin joyeux, hein, on disait. Effectivement, vous avez eu quelques difficultés, vous cherchiez un petit peu à ce moment-là, lorsque vous avez décidé de vivre dans votre cabane. Ce sont des journées joyeuses que vous avez vécues, en dépit parfois du mauvais temps.
Oui, j'ai subi quelques orages qui m'ont fait trembler et qui m'ont fait reprendre qui m'ont fait reprendre les fables de La Fontaine, où je me voyais comme un roseau auprès du chêne, ou bien je me voyais dans un chêne tombant en plein orage. Donc oui, j'ai tremblé avec mon chêne, mais la plupart de mes journées étaient organisées un peu sous la forme d'une vie hérémétique, c'est-à-dire d'une vie presque monacale. C'était très réglé sur la course de la lumière, du levant au couchant. Et ensuite, tout mon temps était donné à l'observation de la nature. Il faut s'imaginer la cabane comme une sorte de lanterne dans le chêne. Et j'avais vitré entièrement, j'avais passé un mois à construire la cabane, et j'ai vitré tous les murs. Donc j'étais en fait dans une sorte d'orangerie ou de volière. Et je pouvais profiter du spectacle et de la beauté de la forêt comme ça. C'était un vrai balcon sur la gaieté. Et j'ai passé beaucoup de temps à observer les oiseaux. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la symphonie, de la pastorale de Beethoven, parce que c'est les loriots, les mésanges, les grimperots, les pinsons qui m'ont offert un enchantement, une gaieté. Et je pourrais dire que c'est par le petit, par l'émerveillement du petit, que j'ai commencé à me relever, à retrouver un petit enchantement de la vie. Vraiment, le jour où j'ai posé ma loupe de botaniste sur un lichen, sur l'écorce du chêne, il y a eu comme une espèce d'épiphanie.
Oui, parce que vous vous intéressez aux oiseaux, aux cerfs, à la nature qui s'éveille, mais aussi aux fourmis.
Oui, effectivement, j'ai passé longtemps à faire le gland dans un chêne et je suis allé comme les fourmis jusqu'au gland. J'ai suivi une colonne de fourmis qui remontait à travers ma cabane et qui allait jusqu'en haut des rameaux. Qui c'est très très intéressant, c'est un petit savoir de botaniste, mais les fourmis montent au bourgeon et elles vont demander aux pucerons qui sont sur les bourgeons de leur sécréter un petit miella. Et ce petit miella, les fourmis le récupèrent et en font leur sucre pour l'hiver. Et tout ça, une petite coopération. J'aime beaucoup cette idée que tout est lié dans la nature.
L'interdépendance.
Pour reprendre, voilà, l'interdépendance, c'est l'idée du pape François quand il écrit la date aussi, c'est-à-dire que tout est lié et autour du chêne gravitent plus de 250 espèces qui se lient entre elles, qui se mangent, qui se dévorent, mais qui s'apportent aussi beaucoup. Et ça m'a permis de suivre les fourmis. On avait reproché une fois à La Fontaine, son père était garde forestier et lui-même, La Fontaine était maître des eaux et forêts. Et on avait reproché à La Fontaine d'avoir observé toute la journée la nature. Et ses parents lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as perdu ta journée. Et lui, il a répondu très doctement, enfin, j'ai assisté à l'enterrement d'une fourmi.
Voilà. Ce qui vous permet d'écrire aussi, hein, comment imaginer s'ennuyer seul dans la forêt? C'est-à-dire que vous n'avez jamais eu l'impression de vide, de temps, là aussi, suspendu, peut-être un peu perdu, comme vous le disiez pour La Fontaine?
Non, j'ai plus l'impression de perdre mon temps quand je suis devant mes écrans ou quand je suis quand je suis dans le digital. J'ai vraiment l'impression, certes, de travailler, mais de perdre beaucoup de temps. Alors que dès que je vais en forêt, dès que je me mets la main contre l'écorce d'un arbre, j'ai l'impression d'une vitalité, d'une force, d'un apaisement. Vous savez, les arbres dégagent aussi des phytoncides, ces petits parfums que les Japonais ont popularisé avec l'idée du bain de forêt. Quand je vais en forêt, j'ai vraiment jamais l'impression de m'ennuyer, parce que le spectacle du monde est là sous les yeux, et que pour peu qu'on sache renouveler son regard, pour peu qu'on sait focaliser son regard sur ces petites merveilles, alors l'ennui n'est jamais au rendez-vous.
Dans ma première balançoire, depuis ma première balançoire sous un marronnier, j'aime les arbres. Les arbres, c'est un peu votre famille, Edouard Cortès, votre deuxième famille?
Ah oui, j'aime bien cette idée, merci. c'est un peu comme des frères, sans doute. Très certainement, j'ai appris dans ma vie en forêt, et puis par mes années de marche et mes années d'ensauvagement, j'ai appris petit à petit à les connaître, à les aimer, à les reconnaître. Et je crois que la connaissance, évidemment, participe à la familiarité que l'on porte aux arbres. Et puis, je m'y sens bien dans le sens où je me sens pas... je sens pas que je vais dans la nature, mais je me sens de la nature. C'est pour ça que je pourrais dire je suis de la forêt. Voilà. Je me sens appartenir aux arbres, oui, en quelque sorte. Vous voyez, on voit souvent en ce moment dans cette idée de sylvothérapie des gens qui font des câlins aux arbres. Je suis pas très câlin des arbres, bien que je réclame de la tendresse, mais j'ai beaucoup aimé pendant mon séjour dans la cabane à être embrassé par l'arbre plutôt qu'à l'embrasser. C'est-à-dire, c'était lui qui me serrait entre quatre branches dans mon petit nid que j'avais construit là-haut.
Ouais, vous dites même un moment, hein, Edouard Cortès, que c'est le chêne qui vous regarde. Je prends un extrait là, dans votre livre, à la page 155. « S'enforester permet à l'esprit de se tenir dans une juste inquiétude, une paisible anxiété de la vie, sans s'effrayer pour sa vie. » Ça veut dire que vous n'étiez pas simplement un doux rêveur reparti vivre dans la nature. Il y avait quand même, malgré tout, ces questions dont vous parlez, une paisible anxiété de la vie, une juste inquiétude.
Oui, parce que je suis assez lucide ayant vécu les années agricoles. Et puis j'ai été reporter, donc j'ai vu, j'ai traversé le monde, donc je vois comment le monde se porte. Et puis j'ai vécu dans ma chair les difficultés d'un entrepreneur français et d'un paysan français. Et donc je suis très lucide sur le monde et la manière de s'y tenir et les difficultés qu'on y traverse. Mais je trouvais qu'il était bon justement pour retrouver un peu d'air, un peu de souffle. De s'extraire, c'est-à-dire que c'est pas une fuite, ça a été un moment de retrait, d'extraction, très salvateur dans mon cas, puisque j'étais vraiment dans des pensées trop noires, mais je crois que ces petits moments de retrait sont très utiles, pour peu que, évidemment, on n'en fasse pas de l'oisiveté, mais qu'ils soient propices à retrouver une élévation de l'âme, ou une respiration, ou une contemplation, puisque par exemple si on va à la nature, après l'observation peut venir cette musique intérieure qui s'apparente à celle du quand on écoute de la musique, c'est-à-dire cette petite musique de l'âme, cette musique intérieure. J'aimais beaucoup cette comparaison avec le violon de la voix de Dieu, parce que quand on est en forêt, on a l'impression dans le bruissement des chênes, comme le pensaient d'ailleurs les Grecs qui voyaient dans les arbres des oracles, on a l'impression d'entendre des voix célestes.
Cyril Gély, par la force des arbres, nous dit Édouard Cortès. Qu'est-ce que vous inspire cette expérience assez étonnante, hein, de 3 mois dans une cabane que nous raconte l'auteur?
Je pense que tout le monde devrait essayer. Tout le monde devrait essayer.
Vous pouvez construire plusieurs cabanes comme ça, Édouard Cortès.
Moi, c'est ce qui me retiendrait, c'est de construire la cabane. Parce que je pense que ça ne doit pas être évident à faire. Mais en revanche, partir 3 mois et se recueillir loin de tous... Moi, en écoutant Édouard, moi, j'avais déjà une première réflexion qui était d'associer Édouard à Saint-Siméon le Stylite, hein, qui est quand même un garçon qui a passé 39 ans en haut d'une colonne qui faisait 12 ou 18 mètres, tout dépend des biographes, qui avait à peu près 1 mètre carré de surface. Donc il pouvait s'agenouiller, il pouvait s'asseoir, mais pas s'allonger. Et moi, la question que j'aimerais poser à Édouard, c'est quel est le regard de ses enfants, en fait, quand il a pris la décision de partir? Est-ce qu'ils ont compris son départ? Et surtout, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce qu'ils en ont appris aujourd'hui, après son retour? Est-ce que ça les a fait évoluer par rapport au monde? Est-ce que ça les a fait grandir? J'espère que ce n'est pas une question trop personnelle.
Voilà, ils ont réquisitionné la cabane, peut-être.
Oui, alors... Ce qui a été aussi un enchantement pour moi l'a été pour les enfants. Déjà, ils ont été associés à la construction de la cabane. Ils venaient voir de temps en temps. Et puis ensuite, pendant mon séjour même, de mon séjour de solitude, presque tous les dimanches, alors je dis presque parce que ça n'a pas été systématique, mais les journées dominicales étaient consacrées à la vie familiale. Et donc les enfants et ma femme me rejoignaient au pied du chêne. Et on a passé comme ça des journées en forêt magnifiques où on allait chercher l'eau à la source, où je montrais aux enfants mes observations de la semaine. Et puis à la fin de mon séjour, donc fin du printemps, au mois de juin, quand les jours rallongeaient et que la paix s'était un petit peu installée au fil des jours, au fil du printemps dans mon cœur, j'ai fait monter les enfants dans la cabane. Ils sont venus passer avec moi 24 heures comme ça chacun, et on a fait des petites activités forestières, tailler une cuillère, etc. Donc je sais pas ce que mes enfants en ont tiré, parce que vous savez, les enfants, ils sont embarqués dans la vie. On les a embarqués dans la ferme, je les ai embarqués dans cette aventure de la cabane, bien que c'était une aventure de solitude, ils y ont participé. Et je crois que pour un enfant je ne sais pas s'ils réalisent que leur papa est un peu perché, mais en tous les cas, de construire une cabane à 6 mètres dans les branches d'un chêne, ça fait toujours rêver un enfant. Et j'aime bien cette idée que c'est peut-être moi qui ai plus rejoint mes enfants. C'est-à-dire que j'avais à presque 40 ans l'envie de me réfugier dans l'enfance pour retrouver un peu de quoi vivre les prochaines années.
Est-ce qu'on peut vous demander aussi, Edouard Cortès, vous avez dit, hein, vous avez été berger, vous avez exploité une petite exploitation agricole, et puis il y a ce passage par la cabane. Aujourd'hui, quelle est votre activité ?
Les arbres, les forêts, l'écriture, le papier. Les arbres fournissent le papier. Eh bien, je vais continuer d'écrire. J'aimerais beaucoup, comme Cyril, me mettre au roman. Je rêve d'écrire un roman. Est-ce que ce sera sur les forêts, sur la nature, qui m'inspire tant ? En tous les cas, il y aura des marches et ensuite de la forêt et de l'écriture. Mais je ne sais pas dans quel ordre, et tout ça un peu mêlé aussi.
Vous êtes redescendu de la cabane, mais toujours un peu avec la forêt, pas loin de votre cœur, si je comprends bien. On va écouter un extrait, là encore, lu par Stéphanie Gallet, par La force des arbres, Edouard Cortès. C'est paru aux éditions des Équateurs.
Je l'ai reconnu de loin, mon chêne. Il m'avait déjà intrigué par sa prestance quand je menais mon troupeau des prairies grasses à l'enclos hivernal. Une de ses branches, longue et charpentière, m'avait même sauté aux yeux, comme pour se faire remarquer. On pouvait aisément y attacher une corde en surplomb du vide. Il est différent des arbres alentour. Eux ont fusé en groupe vers le ciel. Ils ne présentent que des houppiers resserrés et des troncs maigres, sans l'ombre d'une branche inférieure. Lui, plus vieux, plus éclairé, s'est étalé seul pendant des années. Cela le rend unique. Ses larges branches ont poussé horizontalement sans la gêne de voisins. Puis la concurrence est venue. Ses branches se sont alors dressées à la verticale pour ne pas perdre le combat de la lumière. Ses bras levés vers le ciel crient victoire. Et les quatre ramures évasées de la couronne offrent une fondation aérienne idéale.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner, mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais me brûler la lippe. Tabac de la vache enragée, dans sa bonne vieille tête de pipe. J'ai des pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe, le coup de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe.
Et oui, auprès de mon arbre de Georges Brassens, chanté par Maxime Le Forestier, c'était en 2005, c'était trop facile. Au pied de la lettre avec Cyril Gély pour La forêt au violon, paru chez Albin Michel, et puis Edouard Cortès pour Par la force des arbres aux éditions des Équateurs.
Au pied de la lettre, RCF.
Et c'est l'instant maintenant poésie. Bonjour Stéphane.
Bonjour Christophe. Alors cette semaine, je voulais vous présenter le nouveau recueil de Colette Nismazur, « Chaque aurore te restera première ». Un recueil à la taille d'une carte postale, qui est en fait une lettre, très joliment illustrée par des aquarelles de Dan Lemaître, pour goûter chaque jour de notre vie. C'est une lettre adressée à une jeune fille, adolescente ou jeune adulte, sous forme de poème de 3 à 5 lignes, qui livre avec une simplicité percutante ses petits enseignements éprouvés au cours d'une existence. Passeuse de mots et de lumière, comme à son habitude, Colette Nismazur prévient ici les obstacles et les désillusions placés sur notre chemin pour que, lorsqu'ils surviendront, et ils surviennent toujours, quelques-unes de ses paroles puissent réchauffer un peu. Une lettre à la jeunesse, mais qui au fil des pages parle aussi de la force de renoncement, nécessaire quand viennent les pertes et les affaiblissements. Le livre commence par les fameux vers de René Char, qui s'adressent à tous. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Il nous adresse à tous un message essentiel venu du cœur du poème. Alors, je vais vous en lire quelques-uns, plutôt situés au début de ce recueil. Tu vas. Tu avances en vie. Parfois, tu te retournes et t'étonnes. Le temps derrière toi, tapis, de plus en plus vaste. D'adolescence successive en adolescence, de mutation en métamorphose, tu deviens ce que tu es. Tu crois en avoir fini, tu te penses arrivé, alors que tu inaugures à chaque aube un chemin inédit. Tu préserves en toi des silhouettes, des paysages. Sans ta mémoire persistante, ils s'effaceraient. Voilà donc un petit recueil très sensible, idéal pour les fêtes de Noël à offrir aux plus jeunes, à vos proches. C'est donc de Colette Nys-Mazur et Dan Lemaître. Ça s'appelle « Chaque aurore te restera première » et c'est publié à l'Atelier des Noyers.
Merci Stéphane Bataillon pour ce moment de poésie. Je reprends simplement la citation que vous donniez de René Char. « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Je trouve que ça correspond bien, Cyril Gilly, au personnage qui vous poursuivent peut-être, en tout cas que vous avez mis en scène, que ce soit diplomatie où on voit l'ambassadeur suédois faire face au gouverneur de Paris au moment de la libération pour essayer de sauver la ville. C'est pareil aussi avec Lise Meitner qui avait mené des recherches et à qui on avait confisqué, si je puis dire, son prix Nobel. Mm-hmm. C'est un peu ça que je vous avais reçu pour ce livre. Le prix, paru chez Albin Michel aussi. C'est un peu ça aussi qui vous passionne, qui vous interroge, ces destins un petit peu qui vont au-delà de ce qu'ils peuvent faire a priori.
Oui, je retiens aussi une chose là de votre collaborateur qui dit « Deviens qui tu es ». J'adore cette phrase, comme celle de René Char pour moi. C'est le job d'un papa ou le job d'une maman. C'est le job d'un maître, d'un mentor, de permettre à ses enfants ou à une personne d'éclore et de devenir qu'il doit être. Alors, je me suis souvent interrogé, en fait, pourquoi je choisissais. Ma première pièce s'appelait « Signer Dumas ». Il mettait en scène Alexandre Dumas et son collaborateur que personne ne connaît, puisque Dumas n'écrivait pas seul, qui s'appelle Auguste Maquet, et puis Lise Meitner, et puis ce Raoul Nordling dont vous venez de parler.
C'est personne de l'ombre.
C'est exactement ça. C'est ceux qui restent derrière, les petits, les sans-grades, ceux qu'on regarde à peine. Et je trouve que, encore une fois, l'histoire nous permettant d'entrer parfois dans des blancs et d'en avoir une page blanche et d'écrire quelque chose qui peut être vraisemblable. Moi, je suis pas historien, je suis qu'un auteur. Mais en revanche, le fait de s'approprier une histoire et de lui rendre un peu de vie, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup ému, touché, intéressé et passionné en fin de compte.
Edouard Huerta, c'est un peu ça aussi quand on, j'ai envie de dire, on se réfugie, mais c'est peut-être pas le terme d'ailleurs. Hein, quand on s'investit peut-être dans la cabane, c'est repartir un peu dans l'ombre, parce que vous avez été notamment, parce que vous avez fait beaucoup de conférences, plusieurs livres, beaucoup de présence dans des débats, dans des invitations. Vous avez, oui, rechercher un petit peu à vous effacer.
Oui, il y avait une cachette. C'était l'idée de la t'ébahis du retrait du monde, de la grotte. C'est un peu Diogène dans son tonneau. Je suis vraiment parti me cacher du monde pour essayer de mieux y revenir, en tous les cas d'en faire tomber les amertumes et les lassitudes que j'avais enfouies en moi. Et donc c'était vraiment la cachette. Des yeux du monde, loin des feux, loin des lumières, et plus proche des lumières des forêts. Et j'aime bien cette idée de « deviens ce que tu es », parce que c'est ce que j'ai été chercher en forêt en allant dans mon chêne. Et il y a la leçon, je l'ai trouvée auprès des arbres, c'est-à-dire essayer d'être un homme debout, essayer d'être comme eux, enraciné, lever, faire jaillir des rameaux et tenir sa vie droite, tenir sa vie debout.
Vous le dites hein, dans votre livre, il y a aussi une grande richesse de la forêt française. Alors bien sûr, le chêne, on pense toujours au chêne, hein, 136 essences d'arbres différents. Là aussi, c'est un patrimoine, Édouard Cortès, presque une richesse.
C'est une cathédrale, je dirais même. Alors, sans faire de comparaison trop poussée, Chateaubriand avait très bien fait ses comparaisons, et Lamartine aussi avait fait ses magnifiques comparaisons entre la forêt et la cathédrale, c'est-à-dire les colonnes, les voussures, les chapiteaux de lierre. Et en ça, nos forêts sont des monuments, et des monuments quasiment historiques à protéger. Alors, heureusement, la forêt tient une grande place en France, puisque c'est plus d'un tiers de la surface française et qu'on a encore beaucoup de diversité. Mais elle est menacée par deux choses. La première, c'est les grandes sécheresses. Les arbres souffrent beaucoup de la soif, de plus en plus, et plus on remonte au nord de la France, les arbres souffrent. Et puis ensuite, la monoculture, c'est-à-dire cultiver les arbres comme des maïs, et donc parfois, les forêts très diverses sont remplacées par de la monoculture de Douglas, et c'est terrible pour nos forêts.
Cyril Gély, je ne sais pas si avant de vous lancer dans l'écriture d'un roman, vous vous promenez en forêt, ou en tout cas, il y a toute une période forcément de recherche, puisque à chaque fois, vous reprenez, vous le disiez, des personnages dans l'ombre, donc il faut aller un peu chercher des informations. Comment vous lancez justement dans ces recherches ?
En fait, pour écrire un roman, moi je dis souvent, ou une pièce de théâtre, ou même un scénario, ce qui compte, c'est surtout l'idée de départ.
Ouais.
Qu'est-ce qui va faire la différence entre un film et un autre, entre un roman et un autre ? Toute proportion gardée, bien entendu, c'est l'idée de départ. Est-ce que cette idée que j'ai d'écrire sur, par exemple, Alexandre Dumas, sur Lise Meitner ou sur Antonio Stradivari est une bonne idée ou pas ? Si elle me séduit, si je sens en moi quelque chose qui papille, une sorte d'élan qui me donne envie de me propulser vers l'avenir, parce que c'est vrai qu'au départ, vous n'avez pas forcément envie d'y aller. C'est du travail, est-ce que vous faites fausse route ou pas ? Donc vous vous posez pas mal de questions, vous pouvez douter, puis à un moment donné, le doute n'est plus permis, vous vous lancez. Et donc il faut, quand on écrit effectivement sur le passé, essayer, et notamment sur le métier de luthier, qu'on ne connaît pas obligatoirement, il faut absolument être ultra documenté pour pouvoir, au moment d'écrire, tout oublier d'une certaine façon, parce que vous n'êtes pas professeur d'histoire. Et vous, ce que vous essayez d'offrir, c'est simplement un moment, un peu ce qu'a vécu Édouard pendant 3 mois au lecteur, 1h30, 2h30, un moment le soir où il va oublier ses soucis, où il va oublier ses craintes, ses doutes. Et ça, c'est le rôle du romancier, de lui permettre de s'évader. Et voilà, donc je me documente énormément pour pouvoir, au moment de l'écrire, essayer de tout oublier et d'être avec mes personnages principaux.
Et nous faire voyager d'une certaine manière, un voyage immobile encore, avec le livre entre les mains. Il nous reste quelques secondes simplement. L'un et l'autre, j'ai envie de vous demander, on a retrouvé nos librairies qu'il faut fréquenter en respectant le protocole sanitaire. Allez, vous avez un titre à conseiller, pas forcément un livre très récent, mais quelque chose que vous pouvez conseiller à nos auditeurs, Cyril Gély.
Bah écoutez, alors moi j'adore marcher. J'adore marcher, je passe ma vie à marcher, je pars avec mes enfants à la marche. Et là, je viens de bouquiner un super livre qui s'appelle « Une histoire de la marche » d'Antoine Debac, que Édouard connaît peut-être, qui est absolument génial. C'est à la fois philosophique et c'est à la fois sur des auteurs, sur qui a marché. Je le conseille, c'est extra.
Merci Cyril. En un mot, Édouard Cortès, un titre.
Oui, Xavier Gral, L'inconnu me dévore, magnifique, c'est plein de poésie, c'est sur le destin d'un homme et d'un poète qui cherche à devenir ce qu'il est dans la modernité.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Par la force des armes, Édouard Cortès, s'est publié aux Équateurs. La forêt au violon de Cyril Gély, publié chez Albin Michel. Chaque aurore te restera première, de Colette Nismazur et Anne Lemaître, à l'atelier des Noyers. Merci à Pierre-Marie Paget qui était à la réalisation. Merci à Stéphanie Gallet, à Stéphane Bataillon. Et puis à la pied de la lettre, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine.